Vous écoutez France Culture.
La Russie n'est pas un empire. Il ne nous a pas échappé que le sous-titre du livre, c'est qui dirigera l'économie monde. Je me place sous l'angle des empires économiques. Indiscutablement, l'Allemagne n'est pas un empire, ne veut pas et ne voulait pas être un empire politique et encore moins militaire. Mais elle devient, presque sans le vouloir, par l'abandon des autres en quelque sorte, et de notre faute à nous, l'empire, enfin le pays dominant en Europe. Alors ensuite, quant à la Russie n'est pas un empire, elle n'est plus un empire depuis l'effondrement de l'URSS. La Russie a été ramenée de 340 millions d'habitants à 140 millions d'habitants. Elle a été dépecée, démantelée par la volonté américaine essentiellement. Et la réaction...
Pas par la volonté des peuples qui en composaient...
Non.
Vous croyez vraiment que les Polonais et les Tchèques avaient envie de rester dans l'Union soviétique?
Je parle de l'URSS. Je parle de l'URSS. Pas du Comecon et des autres.
Et les Lettons, les Estoniens et les Lituaniens aussi. Ils faisaient partie de l'URSS, ils n'avaient pas vraiment envie d'y rester.
Oui, ils n'avaient pas envie d'y rester, mais globalement, disons que l'effondrement du communisme a fait imploser la Russie. Et la Russie, économiquement, ne compte pas. La Russie est un pétro-pays. Bon, et c'est d'ailleurs son problème. Son problème, c'est l'échec des 15 dernières années. C'est-à-dire que son économie dépend presque exclusivement du gaz et du pétrole. Et quand on est dépendant, c'est le drame d'ailleurs de beaucoup de pays pétroliers, ils sont totalement dépendants, ça génère de la corruption, etc., tout ce qu'on connaît. Et donc, ils n'ont pas réussi à rebasculer la richesse du pétrole vers le développement économique. Et c'est là où ils ont besoin...
L'annexion de la Crimée, ce n'est pas un acte impérialiste.
On peut discuter sur l'origine de la Crimée, etc. Ça nous entraînerait très loin. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que la Russie dit simplement le monde est en train de se partager entre trois grandes zones économiques, hein, et simplement, vous n'allez pas m'oublier. Et le problème des empires, c'est que généralement, vous avez raison de dire que l'empire, à un moment donné, il met des barrières. Hein, c'est la muraille de Chine, c'est le mur d'Adrien, etc.
Le limès, les murailles de Chine, c'est la même chose.
Exactement. Et ce que dit la Chine aujourd'hui, c'est aux Américains, attendez, il y a les marches de mon empire, où là, je ne veux pas que vous veniez dominer, etc. Vous respectez une sorte de zone neutre. Et c'est la même chose que dit Poutine, finalement, autour de l'Ukraine. C'est là, c'est la zone neutre. Et d'ailleurs, les négociations, s'il y a négociations qui s'engagent avec les Occidentaux sur l'Ukraine, c'est que l'Ukraine devienne éventuellement un pays fédéral, et avec une sorte de finlandisation de l'Ukraine. Donc c'est, vous n'allez pas plus loin et vous me laissez une zone tampon, hein, pour que moi je puisse encore exister. C'est ça.
Gabriel Martinez-Grosse, sur ça je vous vois vouloir intervenir.
Non, pas particulièrement. Mais
je vous ai vu faire la moue à deux ou trois reprises sur l'annexion de la Crimée.
J'approuvais d'ailleurs les deux interlocuteurs. Je pense qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose, ce qui fait l'essentiel de leur discussion, comme il arrive souvent. Et malheureusement, je vais peut-être ajouter à la confusion, parce que je n'arrive pas à m'y retrouver, évidemment. Ibn Khaldoun écrit au XIVe siècle, voilà. Hein, c'est-à-dire dans un monde d'économie profondément stagnante. Et il est évident que sa vision de l'Empire est d'autant plus pertinente que vous êtes dans un monde d'économie stagnante. Un des enjeux de la question d'aujourd'hui, la vision de l'Empire d'Ibn Khaldoun est-elle pertinente, c'est de savoir si la révolution industrielle est en train de cesser. Alors, si la révolution industrielle est effectivement en train de cesser, alors la théorie d'Ibn Khaldoun redevient extrêmement pertinente. Peut-être que je vous dis en deux mots de quoi il s'agit. Il s'agit donc de sociétés dans lesquelles la richesse ne se crée pas spontanément, la société civile ne crée pas spontanément de richesse, et où par conséquent, pour créer la richesse, il faut l'accumuler artificiellement. Le biais de cet artifice, c'est l'État. Et à travers l'État, en particulier, l'impôt. L'impôt concentre la richesse dans ce qu'on appelle une capitale, une ville, hein, bien entendu, capitale. Il concentre à la fois l'impôt et l'État, la richesse financière et les ressources humaines qui permettent la diversification des métiers. C'est ainsi qu'Ibn Khaldoun, qui n'a pas les mots gain de productivité à sa disposition, explique en réalité comment se font les seuls gains de productivité possibles dans une société qui spontanément n'en crée pas. Et simplement, cette admirable construction qui permet en effet des gains de productivité qu'on étend ensuite au reste de la société, exige une condition absolue qui est le désarmement des populations parce que, dit Ibn Khaldoun, des populations armées ne paieraient pas l'impôt et par conséquent, le mécanisme de création de la richesse ne se mettrait pas en branle si les populations n'étaient pas désarmées. Dans la mesure, c'est le dernier point, où ces populations, les populations de l'Empire, sont désarmées, l'Empire doit donc tirer la violence qui lui est nécessaire, la violence de ses forces de l'ordre en particulier, la violence de son armée, des zones périphériques qui sont au-delà de ses frontières, au-delà de son limès, au-delà de sa muraille de Chine.
Et donc les barbares.
Et donc les barbares. Ouais. Et donc ce sont toujours les barbares, puisqu'ils détiennent la force qui gouverne l'Empire.
Mais si je vous ai bien lu, Ibn Khaldoun parle même de la douceur qu'il faut imposer, la douceur aux masses, hein, comme aux élites civiles.
Et dire pire que ça, il faut imposer la lâcheté.
Ah oui, absolument. Jean-Michel, je voudrais revenir sur l'Allemagne. Ce qui se passe, c'est plutôt le modèle du Saint-Empire romain germanique, qui était excessivement décentralisé, où l'empereur était une sorte d'arbitre entre les princes et entre les princes, les États, hein, et entre les conflits qu'il y avait entre les peuples et les princes. Et en même temps, le commerce pour le bien de tous. Hein. Et c'est plutôt ça qui est dans la tradition allemande. Vous avez parlé de Bismarck. Tout à fait, Bismarck, je crois, a été un très grand dirigeant allemand, car il avait compris qu'il ne fallait pas aller trop loin, et c'est pour ça que, effectivement, après Sadova et après la victoire contre la France, il n'en rajoute pas et qu'il laisse la France aller trouver des zones d'expansion dans la colonisation, alors que l'Allemagne, elle, ne va pas colonisé à part deux pays. Et en même temps, il se garde bien d'aller s'affronter à l'Empire britannique sur la mer, hein, en ne développant pas une flotte de guerre. Et ça sera quand Bismarck part.
Donc il renonce à l'Empire, c'est ça que je voudrais vous faire
non,
dire.
Mais parce que,
en 71, ils avaient la possibilité de choisir l'option Grande Allemagne.
Oui,
ils choisissent l'option Petite Allemagne.
Oui, Petite Allemagne.
Ils renoncent aux pays germanophones de l'Empire des Habsbourg pour garder l'idée d'un État-nation en réalité. Il fait le choix entre l'Empire et l'État-nation, il choisit la formule État-nation. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas dans l'ADN de l'Allemagne moderne quelque chose qui serait une vocation impériale. Sauf l'accident hitlérien, bien entendu. Non, mais lui est profondément impérial.
Non, l'incident commence avec Guillaume II. Et Guillaume II est le grand état-major allemand. Bismarck meurt en 1900. Et là, à partir de là, il y a une dérive, notamment avec les pan-germanistes. Et c'est comme ça qu'on aboutit à la catastrophe, d'ailleurs, parce que là, ils ont une volonté impériale et ils feront l'erreur d'aller titiller les Anglais en développant la marine, tout en s'imaginant que l'Angleterre ne bougera pas si on peut envahir la Belgique. Et l'idée, à ce moment-là, est effectivement l'idée de faire un empire et d'aller régler son compte déjà aux Russes, aux Slaves, hein, et en se disant « les Anglais n'interviendront pas ». Hitler fera la même erreur. C'est-à-dire qu'Hitler s'imaginera que finalement, les Anglais ne bougeront pas. Et d'ailleurs, pendant toute la guerre, il y aura, ce sera Rudolf Hess qui passe, etc., il y aura l'espoir en Allemagne que les Alliés, finalement, se mettront avec les Allemands contre les Russes et les Bolcheviks. Hein. Donc, il y a un moment donné, et là, indiscutablement, l'Allemagne n'a pas de volonté impériale. Mais elle devient presque sans le vouloir.
C'est ça que vous dites dans votre livre, hein, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique
d'impérialisme,
mais il y a un impérialisme de fait, un impérialisme économique.
Et c'est aussi avec l'élargissement, indiscutablement. Alors, l'élargissement a permis à l'Allemagne de retrouver un Hinterland et surtout de se retrouver sur les cartes ont un rôle, au centre de l'Europe. Et Berlin, quelqu'un l'a dit en 1990, Berlin redevient une capitale d'empire.
Alors, qu'est-ce qui fait, Gabriel Martinez-Gros, qu'au fond, si on parle toujours de l'Empire chinois, de l'Empire américain, éventuellement ou non, en tout cas de la volonté impériale de Vladimir Poutine, qu'est-ce qui fait que l'Europe, qui se constitue comme un vaste ensemble qui veut peser sur la destinée du monde, n'est pas ou ne peut pas être appelée, n'est pas considérée, et n'a peut-être même pas la volonté d'ailleurs d'être appelée un empire ?
Alors, puisqu'il s'agit d'ADN, alors je ne pense pas qu'il s'agisse de, véritablement d'une donnée génétique de l'histoire de l'Europe, mais de fait, depuis le 5e ou le 6e siècle de notre ère, ce qui fait tout de même loin, il n'y a pas ou pratiquement pas d'empire européen. Les seules tentatives impériales ont été des échecs, tout simplement pour une raison simple que la théorie d'Ibn Khaldoun dit bien, c'est qu'à partir du 6e siècle et des invasions barbares, il n'y a plus d'impôts d'État en Europe, où il n'y a plus d'impôts d'État dans les États européens. C'est-à-dire que le prélèvement sur la masse paysanne est dispersé en milliers d'entités de monastères, de châtellenies et de seigneuries. Et par conséquent, le mécanisme khaldounien propre, c'est-à-dire la concentration dans une capitale gigantesque, mégalomaniaque, et où se déploie la spécialisation des métiers et les gains de productivité, ce phénomène ne se produit pas ou n'aurait pas dû se produire. Un des grands coups à la théorie d'Ibn Khaldoun, c'est l'expansion démographique et économique européenne à partir du 10e ou du 11e siècle, que la théorie n'explique pas.
Alors justement, moi, en vous lisant Gabriel Martinez-Cros, je me suis dit, est-ce que la théorie d'Ibn Khaldoun, qui est quand même un auteur qui écrit au Moyen-Âge et dans le contexte de la civilisation musulmane, est-ce que où l'État-nation est inconnu, est-ce que cette conception de l'Empire s'applique à notre zone de civilisation à nous, où très vite nous dégageons en réalité de l'Empire pour fabriquer cette innovation moderne européenne qui est l'État-nation. Et c'est aussi une façon de répondre à Jean-Michel Quatrepoint, qui est effectivement, il me semble que nous, fédération en puissance d'État-nation européen, nous n'avons pas de vocation impériale, parce que l'Empire, c'est quelque chose qui a toujours échoué en Europe, depuis Charlemagne, avec Napoléon, avec Hitler. Toutes les volontés impériales se sont heurtées à la résistance des États-nations.
Gabriel Martinez-Gros.
Tout simplement, oui, bien sûr. Cela dit, à partir du moment où l'impôt, c'est Tocqueville qui le dit, apparaît au milieu du XIVe siècle en Europe, en moyenne, les traits khaldouniens commencent à se manifester dans l'histoire de l'Europe, en particulier l'hypertrophie des capitales. Je vous rappelle qu'en 1300 et en 1700, la population de la France, à cause des pestes et de leur récupération, est à peu près la même, mais que Paris a triplé de taille. C'est-à-dire que la capitale est devenue véritablement une capitale alimentée par l'impôt, comme le veut Ibn Khaldoun, et où en effet se déploient les principaux gains de productivité. L'appel à des mercenaires étrangers, la spécialisation de certaines régions d'Europe dans la fonction militaire, les Suisses par exemple, certaines régions d'Europe, les Albanais bien sûr dans l'Empire ottoman, mais là on est dans un empire traditionnel au sens khaldounien du terme, sont aussi des traits khaldouniens. Mais tout ça est totalement brisé par la révolution industrielle, évidemment, dans la mesure où, à partir de la révolution industrielle, le progrès scientifique et technique crée spontanément de la richesse. On n'a plus besoin de l'impôt pour le créer. Du moins, l'impôt n'est plus la source principale ou essentielle de la richesse. Et par conséquent, l'autre condition tombe, c'est-à-dire le nécessaire désarmement des populations. Le fait majeur du 19e siècle, c'est l'armement des peuples par le biais démocratique. C'est le fait.
Et surtout, il y a une chose que vous disiez à l'instant. Dans la concession d'Ibn Khaldoun, si je comprends bien, il y a l'idée que les échanges commerciaux sont à somme nulle. Hein, alors que dans le cadre de l'État-nation et du commerce entre les cités et les États-nations, le commerce n'est pas à somme nulle. Au contraire, ça enrichit mutuellement. Et ça ne rentre pas dans la conception khaldouniste.
Ça n'y rentre pas parce qu'il n'a pas l'idée de, tout simplement de la révolution industrielle. Il n'a pas l'idée.
Et toute l'Europe commerciale est fondée là-dessus. Ce que nous enrichissons et vous aussi.
Oui, sauf si on tombe à des taux de croissance inférieurs à 1% par an comme aujourd'hui. Et là, on peut se demander si on n'est pas en train de rentrer dans le monde khaldounien, c'est-à-dire dans un monde stagnant.
Jean-Michel Quatrepoint.
Sauf que le problème économique mondial aujourd'hui, c'est que c'est un jeu. Ça doit être théoriquement un jeu à somme nulle, mais qu'il y a des pays qui accumulent des excédents et d'autres des déficits. Absolument. Et que ces déséquilibres sont la cause des tensions, oui, principalement.
Et alors, Brice Couturier le rappelait, effectivement, les tentations et tentatives des empires ont finalement échoué du côté européen. Mais tout de même, que voulez-vous dire, Gabriel Martinez-Gros, expliquez-nous, quand vous dites que finalement le paradoxe du triomphe de l'État national sur l'Empire, c'est qu'il remplit mieux les fonctions de l'Empire que ne le faisait l'Empire. Donc on hérite bien de quelque chose qui n'a peut-être pas marché, ou qu'on n'a pas voulu, qui n'a pas été pérenne, mais on hérite bien de quelque chose avec cette notion d'empire, alors, jusqu'à aujourd'hui.
L'empire est profondément dans sa visée de lui-même, hein, bien entendu, dans sa vue de lui-même, il est profondément pacifique et pacifiant, hein, c'est ce que nous disions, c'est-à-dire que son but est de pacifier les populations. Or, l'État-nation qui a subi, supporté et mené les deux guerres mondiales, c'est-à-dire qui a fait de ses producteurs des soldats, les a en même temps profondément pacifiés, en particulier par le biais de l'urbanisation. Dans tous les sens du terme, nous sommes devenus plus urbains, et surtout par le biais de la scolarisation. C'est l'extension de la ville et de l'école sont les deux grands gains de l'État-nation qui ont pacifié et désarmé à la fois idéologiquement et pratiquement les populations, bien mieux que l'Empire, dont c'était le programme.
Et la sédentarisation ? Et la sédentarisation qui va avec ?
C'est ça, la sédentarisation. Hein. C'est l'urbanisation et la scolarisation. Voilà. C'est effectivement l'abandon, en général, des solutions violentes, y compris dans la vie quotidienne. Le report sur l'État, tout simplement, de la fonction de violence. L'État a une police, il a une justice, il a une armée qui assume toutes les fonctions de violence. Dans le monde khaldounien, évidemment, l'État doit faire appel aux barbares, hein, bien sûr, pour remplir ses fonctions de violence, puisque précisément, il a désarmé ses populations.
Jean-Michel, quatre points.
Oui.
La scolarisation, vous n'avez pas réagi dans votre livre, en tout cas la question de l'éducation est importante.
Oui, elle est importante dans tous les pays, notamment chez nous. Ouais. Mais ça, c'est, on n'a pas parlé de la France. Et c'est vrai que l'Allemagne a pris une place grandissante parce que nous avons progressivement abandonné, nous lui avons abandonné cette place. Tout remonte à 90-91, hein, avec l'éclatement de l'URSS et l'effondrement du communisme. L'Allemagne se remet au centre du jeu en Europe et il y a la réunification. Et en même temps, François Mitterrand, à l'époque, comprend bien que le monde change complètement. Bah, c'est le moment, le 19e siècle se termine à ce moment-là. Hein, et que les rapports de force changent complètement. Et là, il se dit, je vais pour arrimer l'Allemagne à l'Europe, pour éviter qu'elle ne bascule vers l'Est, on va lui prendre son marque. Et nous allons créer la monnaie unique. Et à cela, Margaret Thatcher lui dira, écoutez, vous n'allez pas arrimer l'Allemagne à l'Europe, mais c'est l'Europe qui va s'arrimer à l'Allemagne. Et elle avait vu juste, car effectivement, à partir de ce moment-là, l'Allemagne met en place une stratégie. Ça a été compliqué, il y a eu des affrontements, il y a eu des à l'intérieur du bloc allemand, tout le monde n'était pas d'accord. Ils ont financé la réunification qu'ils ont faite à marche forcée. Hein. Ils ont créé l'Interland, l'élargissement, c'est parce que l'Allemagne souhaitait cet élargissement avec l'appui bien évidemment des Américains pour apporter effectivement au peuple qui était dans le Comécon le développement et les stabiliser. Et à partir de là, je pense qu'en France, on n'a pas très bien compris ce qui se passait et ce qu'impliquait aussi une monnaie unique. Hein. Comment voulez-vous une monnaie, ça correspond à une nation. Or, il n'y a pas de nation européenne. Et c'est pour ça, c'était bancal dès le départ. Hein. Et on a voulu...
Une nation européenne, il n'y a pas d'empire européen. Oui,
non, mais il n'y a pas...
Vous rendez hommage aux lois Hartz et à Schröder dont vous dites qu'il est. Hein. Bah, parce qu'il y a un débat aujourd'hui en ce moment, vous avez
vu.
Oui,
tout à fait. Mais, non, mais les Allemands ont compris...
Guillaume Duval dit le contraire. Hein.
Oui, mais les Allemands ont fait un choix. Les Allemands ont fait un choix, c'est de protéger leur système industriel. C'est la géostratégie allemande et celle de ces grands groupes industriels et du Mittelstand, hein, des entreprises industrielles. Et ils ont fait porter l'ajustement, comme on dit pudiquement, sur une partie de la population allemande, notamment les immigrés des pays de l'Est, notamment les femmes célibataires, etc., et les mini-jobs, etc. Donc vous avez une partie de la population allemande...
un marché du travail dual, vous dites carrément.
Totalement dual, c'est une Allemagne
à deux vitesses. Dans l'industrie, on gagne très bien sa vie, et pour les autres,
on a préservé l'outil industriel, et les services, pas de SMIC, etc. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont développé une industrie agroalimentaire qui, maintenant, est supérieure à l'industrie agroalimentaire française, hein, en utilisant la main-d'œuvre, effectivement, bon marché, des pays de l'Est, des saisonniers, etc. Et en modernisant en même temps leur outil, ce qu'ils font toujours. Et ils ont eu un projet, une stratégie, et nous n'avons pas eu de stratégie. C'est toute la différence entre eux et nous.
Alors évidemment, il arrive que tout de même, c'est ce que vous décrivez, Gabriel Martinez-Gros, que les empires meurent. Rappelez-vous du film de Michael Curtiz, l'Égyptien, où Sinoué parle sans savoir à Akhenaton.
Nous vivons dans le crépuscule de notre monde, Horemheb. Et tu seras le soleil couchant. Les nations s'élèvent puis s'effondrent. Les rois peuvent bâtir de puissants monuments, ils retombent en poussière. Et la gloire fuit comme une ombre. Car dans toutes ces choses-là, la mort a son germe. Seule la pensée peut vivre.
Voilà, il parle à Horemheb, mais qui est donc, en fait, à quel atome? Ça pourrait être une phrase de votre livre, ça.
Presque, oui. Presque. Les dynasties tombent. Pas nécessairement les empires, parce que ce qui constitue fondamentalement les empires, et ça, c'est ce qu'Ibn Khaldoun a si bien compris, c'est leur masse productive. C'est-à-dire, c'est la masse de population désarmée, pacifiée, fiscalisée, qui en constitue le centre, puisque l'essentiel de l'activité des empires, encore une fois, c'est de créer de la richesse. Ouais. Et tout dépend de cette population fiscalisée. Peut-être Ibn Khaldoun a-t-il si bien compris la chose parce qu'il vit à l'heure de la peste. Ce qui détruit les empires, c'est la peste.
Ouais. Et vous écrivez au tout début du livre, page 11, ce que nous appelons l'histoire contemporaine qui a commencé, voilà, deux siècles avec les révolutions industrielles et politiques, s'achève sous nos yeux.
Oui, c'est un pari. Hein. C'est-à-dire... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que la révolution industrielle est à peu près arrivée à son terme dans les quelques décennies qui viennent, hein, c'est pas demain ou aujourd'hui.
Non, non,
est-ce que... Attendez. Est-ce que nous allons retomber à des taux de croissance si faibles que, de fait, les recettes d'un monde stagnant, c'est-à-dire d'Ibn Khaldoun, vont reprendre toute leur pertinence?
Non, dit 4 points.
On vit une troisième révolution industrielle.
C'est ce qu'on dit, oui.
Non. C'est une vraie révolution. Si. Tu vois, évolution.
On verra.
Non. La révolution.
Les Chinois sont toujours supérieurs à 5%. On n'est pas dans un monde stagnant. Allez. C'est dans une Europe stagnante.
Oui. Le Brésil. Le Brésil est tombé à moins de 1%.
Non, mais ce qui change, ce sont les processus de production. C'est la mise en réseau du monde, hein, la mise en réseau des systèmes productifs. Et c'est ce qu'on appelle, autrefois, tout était basé sur la main-d'œuvre. Maintenant, c'est basé sur le cerveau d'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'économie. C'est-à-dire, c'est une société qui est interconnectée.
Voilà, I avec un I, que vous écrivez avec un I d'ailleurs.
Oui.
Jean-Michel 4 points, Le choc des empires, c'est publié dans la collection Le Débat chez Gallimard. Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires, comment ils surgissent, comment ils s'effondrent, c'est aux éditions du Seuil.